10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, eh bien c'est tous les jours de 18h, j'ai envie de dire. Non, c'est le matin de 10h à 11h les amis. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, 10h, 11h, c'est tout nouvel horaire, un tout nouveau créneau. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, et au menu ce que je vous propose ce matin, eh bien c'est de revenir sur trois sujets qui ont retenu notre attention. La guerre en Ukraine avec Zelensky qui fustige, vous voyez, cette indécision concernant l'Europe. L'Europe doit-elle prendre, doit-elle trancher aujourd'hui? Et puis jusqu'où ira-t-il Vladimir Poutine? On en parlera avec nos débatteurs influenceurs. Et puis, la présidentielle. La question que je pose, on est à quelques jours, mesdames et messieurs, de ce premier tour. Beaucoup sont inquiets, beaucoup se posent la question à savoir... Que va-t-il se passer? Est-ce que l'ennemi numéro un de la démocratie ne va pas être l'abstention? Eh oui, on posera là cette question. Et puis notamment, Emmanuel Macron risque-t-il d'être fragilisé, les amis? C'est une grande question, un grand point d'interrogation. Et puis enfin, c'est Mélenchon, tout dernier sujet, qui s'adresse, hein, qui dit clairement, j'ouvre les guillemets, qui s'adresse évidemment aux insoumis, qui leur dit aux fâchés, mais pas aux fachos qui envisagent le vote de Marine Le Pen au second tour, si la question se pose. Eh bien, on se la pose, nous aussi, cette question-là. Voilà ce qui vous attend comme programme, le Quoi de Neuf, avec le docteur Majid Seoussine. Ce sera tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission. Voilà, donc c'est parti, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 10h, 11h, les informés, avec Adil Farkan.
Les débatteurs influenceurs, ils sont avec nous, ils sont tout beaux, les voici, les voilà. Gamal qui est bronzé d'ailleurs.
Un petit peu, grâce au soleil hivernal.
Quel soleil, je veux. Il pleut tout le temps sur Paris. Tu vas le chercher où ce soleil?
Ah ben je cherche dans une forêt, dans une boîte.
En gros, t'étais dans le sud, t'es revenu.
Non, j'ai pas osé.
T'as pas osé.
Ah, j'ai peur du Covid.
Ça va, tout va bien. Gamal Abina, qui est un acteur évidemment de la société civile, mais pas que. Vous êtes aussi le porte-parole des mouvements des citoyens.
UNDC, ouais. Mouvement des droits civiques, c'est ça.
Des droits civiques. Il y a du boulot, hein.
Beaucoup de travail en ce moment.
Depuis 5 ans, oui.
Quand je dis en ce moment, ça, même plus
que
ça.
Vous êtes inquiet là pour le.
Non, je suis pas inquiet parce que les choses sont malheureusement bien posées, mais ce qui m'inquiète, c'est pas le premier tour ou Le Pen. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la lepenisation généralisée des esprits. C'est-à-dire qu'on pousse à droite, et là, c'est inquiétant.
Face à vous, eh bien, c'est Jean-Pierre Colombiès, ancien commissaire, ancien commandant de la police. Aujourd'hui, il est auteur. Il est également comédien. Il remonte sur scène, d'ailleurs, paraît-il. Ça y est. Il s'est fait tout beau. Vous êtes fait quoi, la petite coupette là.
Je ne suis pas bronzé. Bonsoir à tous d'abord.
Il y a tout. Le mec est bronzé. Il a fait la coupe.
Oui. Hein, mais c'était pour un rôle, hein, la coupe. Hein.
C'était pour un rôle. Ah,
là.
Oui, c'est bien.
Là, c'est naturel. Là, je suis au naturel. Moins bronzé, pas bronzé, mais naturel.
Tout va bien. Il paraît alors que vous préparez.
De toute façon, oui. Il y aura autre chose. Enfin, c'est pas moi qui ferai la mise en scène, mais oui, je vais intégrer une troupe pour jouer une comédie policière. Comme quoi, ça colle à la peau.
Ça vous rattrape.
Oui, ça rattrape. Oui.
Ça rattrape, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Messieurs, nous allons tout de suite démarrer avec ce tout premier sujet, la guerre en Ukraine. On en est à quasiment 43e jour de cette guerre. Zelensky, qui fustige, évidemment, il est inquiet. Cette indécision des Européens à propos des sanctions. Mais finalement, est-ce qu'il a raison, à tort, ou est-ce que les Européens doivent aller beaucoup plus loin, Gamal Abina?
Si on veut se suicider, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Le problème de Zelensky, c'est que c'est pas.
C'est vrai. Il n'a pas de clochette ici.
Il faut être très sérieux. J'en prends une.
Voilà, alors on la prend.
Non, mais le suicide économique, alors faut rappeler les choses telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire que Poutine, qui n'est pas un imbécile, clairement pas, hein, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas un fou, il sait ce qu'il fait. Lorsqu'il va attaquer la Géorgie pour récupérer l'Abkhazie, l'Ossétie du Nord, il le fait, personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que la Géorgie, ça semble très loin. Et que le rapport de force. Et déséquilibré. En même temps, il attaque le Nord, il n'attaque pas tout le territoire. Donc, ça donne l'impression qu'il est un peu chez lui, finalement. Lorsqu'il fait la même chose en Ukraine, il commet une erreur quand même, il envahit tout le territoire. Pour d'autres raisons, par rapport à l'histoire de l'OTAN. Mais moi, je pense que lorsque Zelensky, qui est, rappelons quand même ce qu'il est, c'est un comique, c'est un acteur, c'est pas quelqu'un de sérieux, qui est placé par un homme beaucoup plus dangereux et sérieux, qui est donc l'oligarque qui tient le média, qui l'a fait connaître. Cet oligarque a voulu que cet homme soit au pouvoir pour pouvoir l'instrumentaliser. Lui, Zelensky, a coupé avec cet oligarque, c'est vrai, mais n'a pas coupé avec les mêmes habitudes. Il se croit investi d'un rôle et il pense vraiment qu'il défend l'Ukraine comme étant une sorte de perle à morale contre les Russes. Alors c'est dommage parce qu'il a commencé au départ par un rapport sain avec les Russes qui s'est dégradé. Et aujourd'hui, il vous dit tout et n'importe quoi parce qu'il sait, et c'est ça qui est intéressant à retenir.
Attends, c'est pas mal. Parce que...
Il dit qu'il sait qu'il a été lâché par l'OTAN. C'est vrai, il n'y a pas à discuter. L'OTAN n'enverra pas d'armes ni n'interviendra. Qu'il a été lâché par l'Europe. Qu'il croyait être de proximité, il a été lâché par des gens qu'il a cru être ses alliés. Donc aujourd'hui, il fait feu tout bois, vous sert la sérénade du génocide, de Verdun ou de je ne sais quoi, pour sensibiliser les populations européennes parce qu'il a perdu les élites. Et donc quand il propose ça, il propose pour l'Europe un suicide. Pourquoi ? Parce que, et c'est important de le rappeler, la Russie, c'est 24% de la production énergétique mondiale. C'est qu'il est impossible pour l'Europe de se passer de la Russie. La Russie, c'est un des plus grands producteurs de blé avec l'Ukraine. La Russie continue à alimenter, il faut le rappeler, l'Ukraine en gaz. C'est-à-dire qu'ils demandent aux Européens de couper le gaz et en pétrole.
Et en pétrole.
Ils demandent aux Européens de couper le gaz et le pétrole alors qu'ils en bénéficient eux-mêmes. Mmh. Intéressant. Et surtout, la Russie, c'est un poids lourd économique. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Et un poids lourd militaire, c'est le principe. Ils ont 6000 têtes nucléaires.
Mais alors, pourquoi ils fustigent alors le Zelensky?
Parce qu'il est
l'Europe,
parce qu'il est perdu.
Il est perdu. Il est perdu quoi par quoi?
Il sait qu'il est lâché par l'Europe et qu'ils font rien pour lui. Il leur reproche de ne pas sanctionner. Oui, mais ils veulent pas.
Il est lâché par l'Europe.
Il est lâché clairement. Et aujourd'hui, l'Europe, pour sa mauvaise conscience, et là, je vous annonce un truc assez hallucinant. Ma mère a reçu un courrier il y a 2 jours. Écoutez bien la folie. On est arrivé à un seuil de folie qui a été rarement atteint dans l'histoire de l'humanité. Elle a reçu un courrier il y a 2 jours parce que l'Europe, dans sa mauvaise conscience pour se racheter une attitude noble, propose à ce que tous les gens des HLM, elle est au HLM ma mère, reçoivent chez elle, dans une pièce dédiée, un ou une Ukrainienne. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de loger les 100 000 mal logés en France, mais par contre, on a ouvert les portes de n'importe quoi, HLM, les stades, les écoles, tout est ouvert pour avoir des Ukrainiens en tant que, et certains que c'est provisoire, réfugiés.
Eh bien, Jean-Pierre Colombiès.
Oui, non, mais je suis à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est dans un jeu démagogique pur et dur. On se suicide effectivement, en voulant cesser toute relation commerciale avec les Russes, qui est une folie pure. Moi, je pose simplement une question. Si la Chine demain attaque Taïwan, est-ce qu'on réintégrera toutes les usines et tous les intérêts économiques qu'on a placés en Chine? J'en doute fortement. Là, c'est un peu le bal des faux culs, si vous me permettez l'expression. Hein. D'autant que Poutine avait déjà prévenu. C'est pas d'aujourd'hui. Poutine avait prévenu, attention, si vous surmilitarisez l'Ukraine et si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, je ne resterai pas inactif. Et la Russie ne l'acceptera jamais. Il faut être simple d'esprit pour imaginer que la Russie allait sans cesse accepter que l'OTAN et l'Europe, enfin surtout l'OTAN, les Américains grignotent petit à petit, inexorablement, un territoire qui était traditionnellement sous influence russe. Donc arrêtons de jouer les naïfs. Poutine a sifflé la fin de la récréation. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand il dit qu'il a envahi toute l'Ukraine. Je pense qu'il a voulu couper le pays en deux, principalement pour avoir les mains libres à l'est, et vous allez voir que ce qui va se passer.
Qu'est-ce qu'il cherche au juste, Zelensky, quand il a eu... Non, mais quand il va provoquer un peu plus, c'est-à-dire là, il monte d'un cran. Là, mais il monte d'un cran en disant aux Européens, vous m'avez lâché, comme vous me le dites, Gamal Abila, il fustige l'Europe, il va chercher quoi juste. Il y a un message derrière ça.
Oui, mais là,
on le connaît, ce message.
Mais oui, mais il fait le show. Il fait le show.
Oui, il fait chaud.
Il fait le show. Là, il arrive en t-shirt kaki, comme s'il était lui-même sur le front.
Avec une barbe de 4 jours et tout.
Voilà, il nous fait la mise en scène, ce que Macron a assez médiocrement voulu jouer aussi avec son t-shirt, son jean et sa barbe de 3 jours. C'est un grotesque, mais sidéral. Moi, ce qui me gêne, c'est que Zelensky, qui est un peu le Cyril ukrainien, veut jouer le maître des horloges du monde, parce que c'est ça qui est en question. Mmh. Imaginons que l'Europe dise, ouais, vous avez raison, monsieur Zelensky, allez, l'OTAN rentre dans la partie, on déclare la guerre. Oui, bah là, c'est une guerre mondiale, pour le coup. Alors qu'on ne parle que d'une guerre de zone.
Oui, absolument.
On ne parle que d'une guerre d'influence.
En plus.
Voilà, d'une guerre d'influence sur une toute petite région de l'Ukraine qui, en plus, traditionnellement, a le cœur vers la Russie, absolument, qui est russophone. On perd ça de vue aussi.
Plus que russophone, ils sont russes. Hein.
Ils sont russes. Et on oublie de dire que pendant 8 ans, l'armée ukrainienne a joué aux petits soldats dans cette zone-là, dans l'indifférence absolue, totale et générale. Et quand aujourd'hui, on veut faire passer Poutine comme le grand méchant, ce qu'il est peut-être, on oublie que les Américains, pendant plus de 20 ans, ont bombardé le Vietnam.
Après cette analyse, que doit-on comprendre de la grille de lecture concernant Vladimir Poutine, Gamal Abina?
Poutine, c'est un pragmatique. Ce n'est pas un
Est-ce
fou.
Qu'il a perdu? Est-ce qu'il a gagné?
Non, il a gagné. Il a gagné. Bah, quand on écrase une aviation en une journée, on a gagné la guerre. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, quand on a le ciel, on l'a vu en Allemagne, quand il y a eu la guerre, Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a plein de références à la Seconde Guerre, quand les Anglo-.
Il a franchi un cap, c'est le crime contre l'humanité.
Alors ça, il n'a pas franchi ce cap. Ça s'appelle la propagande, mais grossière. La propagande de guerre. On l'a vu avec Timi Chouara à l'époque. Ils nous sortent des gens qui ont été autopsiés. Ça devient
vous
charnier.
Vous avez vu les images de
Boucha? Non, j'ai vu des images. J'ai vu des images de cadavres.
De cadavres à terre.
Oui. À terre, de cadavres qui ont 4 jours. En 4 jours.
Depuis le 19 mars.
Donc, on peut même remonter. Même 4 jours, le calabre n'a pas cette tronche-là. Il y a des mouches partout. Bref, c'est une horreur. C'est pas ça, un charnier. Ensuite, on a vu que les Russes se sont retirés. Il n'y a pas eu de libération. Les médias annoncent libérer. Elle n'a pas libéré la ville. Elle a été quittée par les Russes sous un accord qui a été signé chez Erdogan. Donc, quand on dit ça, on essaie de dire que les Russes sont des méchants qui massacrent gratuitement, ce qui est stupide. Je ne connais aucun, et on l'a vu dans l'histoire avec Saddam Hussein par rapport aux enfants qui étaient soi-disant jetés des couveuses, je ne connais aucun chef de guerre, à part les nazis, parce que les nazis avaient un dogme qui était l'élimination de la race.
Qui était radical.
Voilà. Mais en dehors de ça, je ne connais aucun chef de guerre qui est assez bête pour tuer gratuitement des populations, quitter le territoire et laisser les populations. Ça n'existe pas. Donc ce baratin, c'est une façon de dire que les Russes sont des barbares.
Vous et là, certains, Gamal Abidjan.
Mais c'est une certitude, c'est grossier, c'est tellement énorme que j'ai du mal à croire que les gens y gobaient.
La preuve, c'est que beaucoup de chefs d'État, ils mettent beaucoup de réserves par rapport à ça et demandent justement des commissions d'enquête.
La difficulté, c'est la véracité de l'information.
Il y a un passif.
Ça, c'est le policier qui vous le dit.
Justement, il y a un passif. Une île qui avait été libérée, qui avait été attaquée par les Russes, le type qui résistait, ils ont tué tout le monde. Et ben, une semaine après, on s'est rendu compte qu'il s'est rendu gentiment, qu'il n'a pas résisté.
Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous sommes dans un contexte qui oppose deux communautés slaves.
Absolument.
Et
les frères, quoi.
Orthodoxes. Absolument. On n'est pas comme, par exemple, avec la guerre contre la Tchétchénie, où là, on avait carrément une opposition frontale entre une communauté musulmane.
Deux idéologies, quoi.
Deux idéologies complètement différentes. Mmh. Et bon, les Russes sont entrés là-dedans, ils ont fait une guerre, ils ont massacré. Là, pour le
300 000
coup,
personnes.
Pour le coup, là,
sur 900
000, ils sont pas avec le dos de la cuillère.
Absolument.
Mais dans l'indifférence générale.
Absolument.
Je rappelle quand même que la guerre en Tchétchénie, on n'a pas parlé de retrait des usines
de
Russie, on n'a pas parlé d'ostracisme de Poutine, on n'a pas parlé de tout ça. C'est allé très très bien. Et en plus, il y avait eu pas mal d'attentats, ça faut aussi le reconnaître, d'activistes tchétchènes, selon nous, dans les théâtres, dans les écoles, il y a eu des massacres particulièrement terribles.
Beslan et tout ça, bien sûr.
Voilà, donc là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est dans le cadre d'une opération militaire de récupération d'un territoire qui, traditionnellement, était dévolu à la Russie. À un moment donné, il faut dire les choses de manière très pragmatique et presque cynique, mais c'est ça la politique internationale, c'est le cynisme. Et aujourd'hui, on veut nous faire le coup de la culpabilité internationale, ouh là là, c'est pas bien, Zelensky qui nous fait des discours un petit peu hallucinés, alors que lui-même n'a peut-être pas eu une attitude et un discours propre à assurer la paix entre les communautés. Donc méfions-nous, et il a tout à fait raison de
l'interdiction du russe, par exemple, qui était une loi inique, qui était
votée en 2014. Par exemple, méfions-nous des images. La guerre des images, c'est quelque chose, c'est visuel, ça choque, c'est terrible, on voit des corps, on voit des enfants morts.
Et comme vous l'avez dit, effectivement, il faut qu'on s'assure aussi de la véracité
tout
de tout
fait,
ça. C'est très important. On ne peut pas, effectivement, balancer comme ça.
Sans enquête, hein. Faut préciser, pas d'enquête.
Tout à fait, tout à fait.
C'est un point de vue qui a été donné.
On se retrouve dans une poignée de minutes juste après la pub et on se retrouve notamment avec ce second sujet. On va parler des présidentielles. Ça va faire plaisir à nos débatteurs. Présidentielles, Macron et puis surtout ce premier tour. On est à quelques jours. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. Les informés avec Adil Farkan.
Et nous sommes ensemble avec les débatteurs, influenceurs Gamal Abidjan, mais également aussi Jean-Pierre Colombiès. Tout de suite, messieurs, sans tarder, nous allons exactement, mon cher Gamal Abidjan. On est à quelques jours du premier tour. Beaucoup parlent d'une abstention, d'une forte abstention, mais également aussi beaucoup s'inquiètent, y compris l'entourage d'Emmanuel Macron, qui se pose la question, Emmanuel Macron ne risque-t-il pas d'être fragilisé, Gamal Abidjan? Et puis cette abstention. Et puis, elle a eu une saveur particulière, cette campagne.
L'abstention, j'y crois pas du tout. L'élection présidentielle est une élection qui est souvent une élection qui
est très... Et pourquoi on en parle ?
Ils en parlent pour pousser les gens au vote, c'est tout. C'est toujours une élection où il y a un taux très élevé de participation. C'est la seule élection.
Souvenez-vous, il y a quelques années.
C'est élevé, malgré tout. On n'est pas sur du 60% d'abstention.
Souvenez-vous, Chirac, Le Pen, je parle.
Non, il y a le Front Républicain. C'était même pas une élection.
C'était plié, c'était un plébiscite.
C'était réglé, il n'y a plus d'élection.
C'était un plébiscite.
On savait que c'était Chirac.
Un fort taux d'abstention.
Non, mais faut sortir de la logique de l'abstention favorise l'extrême droite. L'abstention, pour partie, favorise l'extrême droite, mais n'explique pas une montée en puissance d'un Zemmour d'extrême droite, d'un Dupont-Aignan et d'une Le Pen qui reste cumulée à 3, ils sont quand même à 45%. Ouais. Donc je suis désolé, mais même avec ou sans abstention, c'est un score énorme. Donc ce qui se passe, c'est que moi, je pense pas que l'abstention soit un problème. Le vrai problème, c'est le débat politique qui s'est appauvri dans des proportions hallucinantes, où on ne parle que d'immigration, de migrants, de problèmes de délinquance.
D'ailleurs, d'extrême droite, je m'excuse, mais l'extrême droite.
Jean-Pierre Colombier.
À chaque fois, j'ai le poil qui se hérisse quand j'entends ça, parce que parler d'extrême droite, quand on parle de Marine Le Pen, moi, je veux bien tout entendre, mais on n'a pas parlé d'extrême droite quand, à l'époque, sous Sarkozy, on avait lancé le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Rappelez-vous les dégâts que ça a causé. Déjà, il avait commencé. Rappelez-vous les
rafles. Il faut appeler un chat un chat. Les rafles qui étaient organisées à la sortie des métros parce que ce monsieur avait lancé un vaste programme
de reconduite
à la frontière et que pour en expulser 25 000, il fallait en contrôler 2 millions. Voilà. Et ça, je l'ai vécu de l'intérieur.
On s'en pose pas. Sarkozy a eu, parce qu'il a eu dans son gouvernement quand même, des gens qui étaient l'extrême droite, des anciens d'Occident. Bon, lui, il est quand même.
Parle de Le Pen, là.
Non, je parle de Sarkozy.
Oui.
Sarkozy a eu dans son gouvernement des gens qui venaient d'Occident.
Absolument.
On se rappelle de Véjean, on se rappelle évidemment de tout un tas Hortefeux. C'est quand même des gens qui étaient d'extrême droite. Donc là-dessus, on peut pas discuter.
Absolument.
Et la question de l'identité nationale est intéressante. C'est bien de le rappeler. Moi, je suis d'accord. L'extrême droite n'est plus caractérisée uniquement par l'extrême droite, mais la droite devient dure, donc d'extrême droite. Les questions qui se posent, c'est quoi? Identité nationale, c'est les questions nazies. Ils ont évoqué ça de façon claire. Et en 1935, à Nuremberg, ils font des lois qui vont appeler pourquoi la protection de la race allemande, qui sont des lois d'identité nationale. C'est ça que Sarkozy a levé comme lièvre. Là-dessus, je ne vais pas imposer ce que je dis, c'est que 45%, et c'est vrai que là, je peux vous rejoindre sur un point. 45%, c'est l'extrême droite classique connue. Et le discours de Mme Pécresse, qui rejoint l'extrême droite, apporte quasiment 55% au paysage français.
Et cautionne, normalise le discours de Marine Le Pen.
La lépinisation.
Mais moi, par curiosité, enfin, pas que par curiosité, par intérêt, j'avais été écouter les discours de ce fameux Sarkozy à l'époque, à la Concorde, et ensuite je crois qu'il avait été au Trocadéro de mémoire. À la Concorde, c'est sûr, j'y étais. Moi, je suis désolé, ce à quoi j'ai assisté, c'était une sorte de mini Nuremberg, avec une sorte d'exaltation de la foule. Pourquoi? Parce qu'il avait été très malmené, il était très inquiet de la candidature de Hollande, parce que lui-même, parce qu'on a oublié ce qu'a été le quinquennat Sarkozy quand même. Il y avait une vraie détestation du personnage. Et comme il avait justement besoin des voix de la droite, il a radicalisé totalement son discours. Et preuve en eux, c'est que ce pauvre Valérie Pécresse...
Certains disent qu'Emmanuel Macron est en train de vivre la même chose. Est-ce que c'est
oui,
vrai?
Oui, mais il aura moins de prise. Parce que c'est fait, quoi. Il va pas marcher...
Il a moindre mesure, quand même.
Non, mais Macron a une droite dure chez lui, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Mais ce qui se passe, c'est que Macron joue la carte de l'anti-extrême droite. Il joue la carte de Chirac de l'époque.
Je suis désolé. Attendez, messieurs, rappelez-vous ce qu'a fait Macron. Je dis bien ce qu'a fait Macron pendant les Gilets jaunes. On aurait eu Marine Le Pen à cette époque à la tête du pouvoir, on aurait parlé de quoi? On aurait parlé de la nuit de cristal, probablement. On a quand même éborgné des gens qui n'avaient strictement rien fait. J'y ai assisté à ces manifestations.
Moi aussi,
je suis allé dedans pour voir ce qui se passait. Oui, bien sûr qu'il y avait des black blocs, mais il y avait des milliers de gens.
C'était très minoritaire.
Il y avait des milliers de gens comme vous et moi, des familles.
Oui, des Français qui avaient peur. Quoi.
Et la consigne a été donnée clairement de matraquer cette révolte, de matraquer cette expression populaire, parce qu'elle entrait en résonance avec une sorte d'expression populaire un peu à la mode communarde. Et ça, ça fait peur. Ça a fait peur à la réaction, ça a fait peur à l'oligarchie dominante. Quand le peuple s'exprime, ça fait toujours peur.
Non, mais Macron, faut pas réduire le rôle que Macron a eu en termes de répression. C'est pas discutable. On peut pas réduire le rôle de Macron en termes d'ultralibéralisme. Il n'est pas discutable non plus. On peut pas réduire le rôle de Macron qui laisse un pan, parce que Macron, son parti, c'est pas un parti, c'est un front de plusieurs éléments d'autres partis, qui laisse le front droite et extrême droite qui existe s'exprimer. On peut pas le réduire. Macron, c'est un chef d'orchestre qui joue la balance entre l'un et l'autre.
La question qui est posée, est-ce qu'il est fragilisé? Moi, j'ai envie de dire qu'il est fragilisé depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il a nommé autour de lui une noria de gens particulièrement médiocres qui ne devaient pas lui faire d'ombre, qui ne devaient pas lui faire...
C'est pour qu'il brille par rapport à...
Exactement. Donc à l'intérieur, notamment, il avait mis Gérard Collomb, le vieux Kakoshim qui arrivait là-dedans, qui d'ailleurs est parti comme un voleur. Il a dit lui-même, je pars dans la nuit. Auquel a succédé Castaner, qu'on ne présente plus. Auquel a succédé un certain Gérald Darmanin qui a fait les beaux jours, enfin qui a travaillé dans les cabinets de Sarkozy. Enfin, je veux dire, on est quand même... Et sans oublier les porte-paroles célèbres quand même, dont on nous a gratifié. C'était calamiteux. Et là-dessus, il y a un combat totalement perdu qui est celui de la communication. Et aujourd'hui, la seule ressource qu'il a, et ça depuis 2 ans, merci Saint-Covid, c'est la peur. C'est la peur. C'est de tenir l'opinion publique par la peur. Ça fait 2 ans qu'on nous matraque avec le virus, qui, au départ, c'est vrai, a surpris tout le monde, par sa densité. C'était très violent. Mais comme ça, il n'y en a plus de Covid. Enfin, ce qui reste est une côte comète. Ben, alors maintenant, on a les Russes. Et donc, on continue ce débat mortifère. On nous fait croire que la Russie va bombarder avec une bombe atomique.
Oui, c'est très confortable. D'ailleurs, j'ai deux macronistes l'autre jour, on l'a fait avec l'émission. Avec la ministre. Bon, très gentil, la ministre, c'est pas de problème. Je vais pas lui reprocher ça. Mais la posture qu'ils ont adoptée, c'est de dire, mais Macron s'occupe de la question ukrainienne.
Ben, voyons.
Il s'occupe pas de la question ukrainienne. Il s'occupe de rien parce qu'il n'a pas voix à la parole et que c'est pas lui qui pèse. Donc, mais c'est une façon habile de dire, mais rendez compte, j'agis à l'international parce qu'il y a un risque de guerre.
Il fait rien.
Il fait rien.
Il n'était pas obligé de prendre la présidence de l'Union européenne. Ça faut quand même le rappeler. Il aurait très bien pu laisser sa place, justement, sachant qu'il y avait cette échéance électorale par honnêteté. Mais bon, on est loin du compte là pour le coup avec le personnage. Il aurait pu laisser sa place tout simplement parce qu'il y avait cette échéance électorale qui peut faire qu'il peut y avoir une alternance et de fait. peut-être, ça peut être quelqu'un d'autre qui finira la présidence.
Ça peut arriver, deux mois après, je suis d'accord. Ce qui se passe, par contre, très important de le rappeler, c'est que le choc qui risque d'arriver, et je le répète régulièrement, parce que moi, je ne sous-estime pas la puissance, la montée en puissance extraordinaire, il faut lui reconnaître cette qualité, d'un homme qui a eu l'intelligence, pour le coup, c'est un des rares politiques à avoir l'intelligence de le faire, de dire je me suis trompé. Et ça, ça n'existe pas en politique. Un homme ne dit pas je me suis trompé. Et il a été conseillé certainement, et bien conseillé de façon habile. Monsieur Mélenchon a dit je me suis trompé sur pas mal de choses dans le passé que je reconnais être des erreurs. Ça, ça lui a donné un vent de sympathie incroyable qui fait qu'il n'arrête pas de monter. Et le choc, s'il doit y en avoir un, au second tour, parce que le premier tour, c'est là où on va se débarrasser de l'extrême droite ou pas. Au second tour, ce fameux choc, c'est si lui arrive aux commandes. Là, vous allez voir les réactions. On a déjà les premiers ballons d'essai qui sont arrivés. Hollande s'est prononcé contre son ancien camarade. Hein. C'est un ancien socialiste quand même.
Ouais, quand radicalement. Qu'il avait été ministre.
C'est extraordinaire, on est d'accord. Il l'attaque. Et d'autres poissons commencent à arriver. On parlait tout à l'heure d'Entoven, pareil. Ça commence. Bon, Entoven, il a dit que le PS voulait dézinguer. Donc ça dit des choses. Ça dit qu'effectivement, si cet homme arrive aux commandes, lui, c'est pas un radical. J'ai jamais cru que M. Mélenchon était radical. Mais l'équipe qui est autour de lui est extrêmement radicale. Ça, ce ne sera jamais accepté par la fameuse oligarchie dont on ne parle pas. Mmh. On appelle ça les hommes d'affaires. L'oligarchie française n'acceptera jamais qu'un radical vienne être taxé. Oui, parce qu'on ne va pas dire que ce sont des prédateurs économiques. Je veux dire, Vincent Bolloré, c'est peut-être un homme d'affaires, mais on voit ce qu'il fait en Afrique, c'est plus un oligarque. On est d'accord.
Oui, oligarque d'ailleurs, qu'il faut le rappeler, quand on parlait des Russes, on va y revenir juste deux secondes, dont un certain ministre de la Justice était avocat.
Absolument.
On oublie que M. Éric Dupond-Moretti, qu'on n'entend pas d'ailleurs, il est d'un,
il n'ose plus parler.
Une discrétion, mais alors, ça devait être l'homme de la campagne, puisque Sarkozy, c'est un lapsus révélateur. Absolument. Macron l'avait intégré à son équipe ministérielle pour justement dynamiser ce
pour donner la côté un peu populaire.
Oui, et puis bénéficier de cette éloquence. Mais cette éloquence d'avocat ne fonctionne qu'aux assises. Qu'aux assises. Et là, on ne l'entend pas. Ben,
alors, la question
peut-être des casseroles.
La question que je vous pose, messieurs, finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron est si fragilisé que ça pour ce premier tour, et est-ce qu'on risque pas de s'attendre à cette montée en hausse progressif de ce premier tour? Justement, est-ce que Marine Le Pen risque pas de provoquer peut-être la surprise de ce premier tour?
Bon, pour moi, Le Pen, je peux répondre à ça. Le Pen, non, mais c'est parce que ça me paraît intéressant de penser que Le Pen
est là pour ça.
A été, non, mais c'est parce que c'est une idée qui me vient à l'esprit. Quand on lance dans la bataille à Zemmour, qui est une baudruche, hein, il est monté en puissance, il s'est effondré très vite, c'était pour casser Le Pen et la droite, c'est ça. Ils ont voulu faire ça. Pourquoi? Parce que s'ils cassent Le Pen et la droite, qu'est-ce qui reste? Mélenchon. Donc je ne crois pas dans la stratégie de Macron qui est conseillée, rappelons toujours qu'il est conseillé par un homme qui a conseillé Mitterrand, même stratégie, hein. Donc Jacques Attali. Ne croyons pas une seconde qu'il ne sait pas où il va. Macron sait qu'il y a un risque. Il existe le risque parce qu'il y a un vrai désenchantement d'une grande partie de la population. Il sait que dans les quartiers populaires, il est grillé. Plus personne veut de lui. Il lui reste quoi? Il lui reste donc de s'appuyer sur la droite, et la droite dure. C'est ça sa base. Sa base électorale de gauche n'existe plus. Donc il la laisse à Mélenchon, il détruit Le Pen et il espère arriver en second tour. C'est ça.
Sauf que Zemmour.
Messieurs, je vais juste lancer, pour pas qu'on se mette en retard justement, le Quad 9, c'est parti, vous le savez. Et c'est avec le Dr Majid Suicide, c'est parti.
Les informés, le Quad 9.
Et le Quad 9, c'est avec Dr Majid Suicide. Bonsoir mon cher, bonjour plutôt mon cher Dr Majid Suicide.
Bonjour.
Bonjour Adil.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides chez les militaires, mais aussi au SAMU. Mon cher docteur, nous vous écoutons. À vous la parole pour ce billet d'humeur. Dernière ligne droite avant ce premier tour, mon cher docteur.
Tout à fait. Triste spectacle cette semaine. Et oui, mon cher Adil, c'est la guerre. À force de vivre dans le confort et la sécurité depuis bien longtemps, nombre d'entre nous l'ont oublié. Nous avons l'habitude d'employer des mots dont nous n'avons totalement vidé le sens. C'est compliqué quand il s'agit juste de savoir si on doit prendre un fraisier ou une tarte au citron pour le déjeuner en famille du dimanche, de dire j'ai un souci quand l'ascenseur est en panne dans l'immeuble ou quand, comme vous Adil, vous n'avez plus de déodorant bio, senteur crème brûlée que vous utilisez pour masquer ce qui émane comme fumée virile de vos aisselles.
C'est ça.
Pour les Ukrainiens et aussi beaucoup d'autres peuples, c'est extrêmement compliqué et eux ont de vrais problèmes et pas de simples soucis. J'ai toujours l'estomac retourné devant les terrains de guerre, viols, massacres, exécutions sommaires, destructions m'émeuvent. Et je ne peux m'empêcher d'être pris par un sentiment de compassion et de révolte devant la barbarie humaine. Et même si la guerre justifie l'existence des militaires en les supprimant, comme disait Henri Janson, on ne peut que se réjouir quand elle s'arrête, et je ne suis pas bien sûr que l'on ait dans les années qui viennent beaucoup d'occasions de se réjouir. Nous sommes rentrés cette semaine, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les derniers tours de piste avant de voir ce dimanche ce fameux premier tour de cette non-campagne présidentielle. Nous avons assisté cette semaine au premier grand meeting du candidat, ex-futur président. Et laissez-moi vous dire que nous sommes un peu restés sur notre faim. Tout d'abord, il n'a plus tout à fait ce visage juvénile. Il n'a plus tout à fait ce visage juvénile, le pouvoir use, et sans doute que la guerre en Ukraine n'est pas bonne pour les cernes. Ensuite, on mesure combien il est difficile de donner envie et de faire espérer du neuf quand on a gouverné 5 ans. En revanche, on reste toujours impressionné par la maîtrise du verbe et cette capacité à parler pendant tout ce temps sans presque regarder ses notes. Et ce qui m'a le plus stupéfait pendant ce meeting, c'était cette image de Jean Castex faisant la hola. Mais il faut...
C'est énorme, ça.
Mais il faut dire qu'en termes de meeting, Mélenchon écrase tout le monde. C'est vrai qu'il a de l'entraînement, 3 campagnes, sa forme. Et c'est pourquoi on est presque comme beaucoup à souhaiter un second tour M&M's, c'est-à-dire Mélenchon-Macron. D'une part, parce que je voudrais bien voir Marine Le Pen avec une tête de baladure, ne croyant pas qu'il avait été éliminé par Chirac, ou mieux, de Jospin écarté par Jean-Marie, alors qu'il était convaincu d'être le futur président, annonçant avec un certain panache qu'il se retirait de la vie politique, ce qu'il fit d'ailleurs. Imaginez un second tour, Mélenchon-Macron. Quel choc! L'un acteur de théâtre version Marivaux, l'autre battleur de champ de foire, Jean Salive d'avance. Cela redonnerait un peu de charme à cette campagne dont on ne dira jamais assez combien elle était ennuyeuse, vide, sans proposition avec des candidats de Ligue 2. Les seules propositions un peu originales dont on a sont malheureusement celles formulées par M. Z avec son ministère de la Remigration ou la création d'un ticket paysan à destination des agriculteurs locaux de Jean Lassalle, Jean sacré Jean Lassalle, dont Macron serait bien inspiré de le nommer comme ministre, ça nous changerait des bourdes de Marlène Schiappa. Alors, comment dire ? Pour finir, pour ce premier tour, mes chers amis, mes chers auditeurs, faites comme vous voulez, mais votez. Votez de grâce, notamment dans les quartiers populaires, pour que l'on vous considère un peu. Les politiques ne vous regarderont que si vous votez, sachez-le, cela fait des années qu'on le clame. Faisons mentir les sondages qui nous annoncent une extrême droite à plus de 35%. Diluons son score par nos votes. Et inspirons-nous des Chinois. Et rasons le crâne des fachos qui veulent quitter la quarantaine dans laquelle on les a mis pendant de longues années.
Bravo pour ce billet d'humeur. Franchement, bravo, j'ai envie de vous dire. Merci et je vous rejoins, je partage ce que vous dites. Votez, votez et encore votez. Merci, docteur Majid Soussin.
À votre service, mon cher Adil.
Et prenez soin de vous surtout.
À bientôt.
Allez, on lance la pub et on se retrouve dans une poignée de minutes avec Gamal Abina, mais également Jean-Pierre Colombier. Ça tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkad.
Dernière ligne droite, les informés avec Gamal Abina, mais également aussi avec Jean-Pierre Colombier, 01 53 48 3000, si vous voulez évidemment intervenir, commenter l'actualité. Le dernier sujet, c'est Mélenchon, toujours cette présidentielle, qui lui, vous savez quoi, eh bien, s'adresse aux fâchés, mais pas aux fachos. Attention, qui envisage le vote de Le Pen. En gros, ce message, il veut dire quoi, Gamal Abina? Ah, ça vous fait sourire, j'adore, ah oui, je kiffe.
Bon, déjà, une petite pensée.
Ah oui, clochette surtout.
Je rejoins, non mais c'est logique, c'est comique ce qu'il y a. Une petite pensée pour le peuple ukrainien, parce que quand on est en guerre, c'est l'horreur. Il n'y a pas à discuter. Oui, quel que soit le peuple qui subit, il faut toujours penser à lui en premier. C'est pour ça que j'en veux à Zelensky. Maintenant, pour revenir à cette idée de fâché facho. Qu'est-ce que c'est, quelle est l'idée d'un raciste? Un raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. Il y a des problèmes économiques, il va taper sur le pauvre immigré qui est aussi pauvre que lui. Donc quand il dit qu'il s'adresse plutôt aux fâchés qu'aux fachos, ça va être difficile de faire la distinction entre les uns, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont en colère et qui en veulent et qui pensent que l'antisystème c'est le meilleur.
Aux fâchés mais pas aux fachos.
Mais le problème de alors il n'y a pas de fachos à l'extrême droite.
Fâchés mais pas fachos.
Oui, il y a pas les vrais fachos, c'est 2000%. Les vrais fascistes en néo-nazis. Aujourd'hui, c'est pas la même chose, on est d'accord. Donc quand il dit facho, c'est un terme un peu grossier.
C'est
mais par contre, extrêmement radical. Par contre, moi, je ne rejoindrais pas un homme comme Tapie en son temps qui disait que les électeurs du Front National sont des salauds. Non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que ce sont des gens qui ne vont pas bien. Ce sont des gens qui voient des politiques se foutre de leur gueule toute l'année et qui se disent peut-être qu'à l'extrême, il y a une solution.
Ah oui.
Ce ne sont pas des gens qui adhèrent au racisme. Ça, je ne crois pas. Il y a des réflexes racistes généralisés dans la société. C'est des réflexes, malheureusement, qui existent. Mais celui qui a un réflexe n'est pas nécessairement raciste. Donc quand il fait ça, c'est juste pour rabattre un peu de voix, c'est tout.
Mais c'est clair. Non, mais
Jean-Pierre Colombier.
Ouais, deux choses pour reprendre la fin de la discussion qu'on avait juste avant, par rapport à Zemmour, notamment. Zemmour aura eu la qualité pour Marine Le Pen, de la rendre
sympathique,
fréquentable.
Je suis d'accord.
Et la radicalité de son discours, qui était motivée uniquement par l'objectif de lui piquer des voix et de piquer des électeurs au Front National, finalement aura échoué, à mon sens, de mon point de vue,
aura échoué,
puisque justement, ça la légitime. Par contre, par rapport à ce que dit Mélenchon, mais c'est d'une absurdité totale. Je m'explique pourquoi. Parce que caractériser les électeurs du Front National comme des fachos, c'est réduire de manière mais aveugle justement l'incapacité de la gauche.
Comme une boulette.
C'est une imbécilité.
Il
ramène le débat au ras des pâquerettes parce que il devrait se poser des questions plutôt de se demander pourquoi la gauche a loupé tant de débats essentiels depuis 20 ans. Si l'extrême droite, moi je dis même pas l'extrême droite, c'est pas des fachos chez Marine Le Pen, c'est des gens plutôt, moi les gens que je connais qui vont voter Front National sont des gens fâchés et écœurés justement.
C'est ce que vient de dire
Tapie était mal inspiré de dire ça. C'est parce que justement il y a eu des Bernard Tapie comme ministre que justement l'extrême droite monte. Et quand je dis l'extrême droite, je dis plutôt l'élection, l'expression populaire qui n'en peut plus de voir justement des Sarko, des Hollande, des Macron, des Chirac, qui constamment ont un double discours et ne tiennent pas parole, et mentent.
Mais Marine Le Pen, elle fait partie du système aussi.
Oui, mais comme on l'a jamais essayé, on l'a jamais essayé.
Le problème de l'extrême droite, c'est qu'elle a une histoire. Il y a une réalité de l'extrême droite. Quand moi, je suis passionné par ça, j'y travaille 10 ans. Donc je connais la musique par rapport aux montées des fascismes en Europe, le fascisme italien et puis après le nazisme en Allemagne. L'extrême droite a une histoire. Elle fait quoi? Elle met au pouvoir des hommes du peuple. C'est pas des riches qui sont pauvres. Hitler était pauvre.
Et leur électorat, c'est pareil.
Et leur électorat, c'est des gens du peuple qui disent quoi? Moi, je suis comme vous, je comprends votre situation. Le Pen n'en est pas du peuple, c'est une grande bourgeoise. Mais son père était du peuple malgré tout. Je suis comme vous, je comprends votre situation. Je ne vous mentirai pas. Il y a un discours célèbre de Hitler où il disait je ne ferai pas comme les autres, je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne vais pas vous promettre des choses que je ne tiendrai pas. Je tiendrai ce que je promets.
Marc, il avait promis la guerre,
il l'a pas promis justement. Il l'a pas promis. Il était plus malin. Il a dit dans Mein Kampf. Mais après,
quand
pendant
on dit
tout,
Mein Kampf, il y a pas
oui, dans Mein Kampf uniquement. Mais après, pendant toute sa mandature, il ne parle pas de guerre. C'est à la fin qu'il en parle. Mais il dit quoi? Il dit moi, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il ne veut pas faire peur aux gens. Je vais tenir mes promesses. Et il les tient, ses promesses. L'économie se redresse parce qu'il fait des réformes considérables anti-capitalistes. Pas le billet. Le capitalisme financier. Quand il y avait le courant de gauche qui était encore.
Jusqu'à l'élimination des SA.
Jusqu'à ce qu'il élimine Armstrong, effectivement. Donc anti-capitaliste. Après, il s'associe au capital d'entreprise, d'industrie, la grande bourgeoisie, sans la finance. C'est son ennemi pour lui. Et donc, il a le discours que n'a pas Le Pen, évidemment, elle n'a pas prendre sur la finance. Et c'est un discours qui dit quoi? Comme l'a fait Mussolini en son temps, parce que c'est son maître, son père spirituel, il dit, moi, je promets, je tiens. Et c'est vrai qu'ils ont tenu leurs promesses de façon radicale. Le seul problème de l'extrême droite, c'est que ces promesses-là, elles ne tiennent pas dans le temps, parce qu'après, il y a l'inflation, il y a la dégradation des comptes de l'État, parce qu'on ne peut pas acheter
la
population.
Et qu'il faut la guerre pour la résoudre.
Et qu'il faut la guerre pour la résoudre, absolument.
Non, mais allez-y, Jean-Pierre.
Non, mais on en revient. Enfin, moi, je persiste. Je veux dire, si on a un tel écroulement des pensées politiques, parce que la campagne à laquelle on assiste, elle aura des pâquerettes. Si on a un effondrement des idéologies, c'est parce que la gauche a tout trahi. Quand Hollande prend le pouvoir en 2012, il a tout. Il a les mairies, il a les conseils généraux, les conseils régionaux, le Sénat, la Chambre haute, il a tout. Il a tout. Cinq ans après, il n'a plus rien. Ouais. Et il n'a plus rien tout simplement parce que ce monsieur n'est pas de gauche. Et qu'il a mis au pouvoir des gens comme Valls, qu'il a écouté des gens comme Attali, qui lui a amené sur les fonds baptismaux un certain Emmanuel Macron, et que les gens ne se reconnaissent plus là-dedans.
De toute façon, François Hollande, c'est le fils d'un mec qui est à l'OLS.
Est-ce que Mélenchon peut créer la surprise justement de ce premier tour?
J'en suis persuadé.
Persuadé.
Moi, je pense parce qu'il n'a pas arrêté de monter, parce que dans les courbes de sondage, les sondages valent ce qu'ils valent.
Vous dites
dans
combien?
Les courbes, il va finir à 21. Il passe son temps à monter,
monter. Donc ça veut dire qu'il est avec Marine Le Pen alors au premier tour?
C'est pas sûr.
Pas loin,
c'est là
pas
l'étonnement, c'est
donc
pas.
C'est, vous parlez de Macron, c'est Mélenchon.
Non, Macron pourrait être la surprise. Il pourrait disparaître si Le Pen se maintient et si Mélenchon monte, il pourrait disparaître. C'est ça le risque. Même si je crois peu que Macron soit pas au second tour, parce que le système est énorme en sa faveur. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon Mélenchon, il va créer une surprise monumentale et un électrochoc.
Vous dites quoi?
Oui, non, mais il y a autre chose.
On va finir avec Pascal Boniface. Vous dites quoi?
Il y a autre chose moi qui me frappe quand même dans ce qu'on entend dans les discours politiques. On taxe Marine Le Pen d'extrême gauche, d'être facho, comme le dit Mélenchon, mais qu'est-ce que pense Mélenchon de quelqu'un comme Poutou, par exemple, qui prône la révolution populaire, qui prône l'anarchie systématique, systémique même, puisqu'il faut tout casser, faut casser la République, faut casser les institutions.
Bon, après, je vais donner à Poutou un cadeau quand même.
Et passer par l'expression populaire violente si c'est nécessaire. Je sais la définition d'un anarchisme absolu et qui d'ailleurs est totalement incompatible avec et les communistes et le mélenchonisme. Pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dans une didactique, une rhétorique révolutionnaire, mais c'est pas compatible en tout cas.
Ah, Poutou, il y a une chose que j'ai aimé chez lui. Il m'a fait rigoler, Poutou, une fois. Il a dit une chose. On lui a demandé s'il avait le pouvoir, qu'est-ce qu'il ferait. Il a répondu simplement et honnêtement, oh, c'est bien emmerdé.
Voilà. Et oui.
Parce et on finit avec Pascal Boniface, justement, les informés. Tout de suite, c'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Pascal Boniface, le patron de l'IRIS. Bonjour, mon cher Pascal.
Bonjour Adil, tu vas bien?
Très très bien, ravi de vous retrouver mon cher Pascal Boniface, on vous écoute, on est à quelques jours de ce premier tour, mais qu'est-ce que vous nous consacrez concernant le billet d'humeur qui vous est...
Bah, mon billet d'humeur est consacré au massacre qu'on a vu à Boutcha et qui ont quand même glacé le sang à tous ceux qui l'ont vu. Alors la Russie dément en être le responsable, mais s'il n'y avait que les Ukrainiens qui mettaient en cause la Russie, on pourrait effectivement avoir un doute. Mais il n'y a pas que les Ukrainiens, il y a aussi Human Rights Watch, Amnesty International et de nombreux journalistes dans leur diversité et dans la multiplication de leurs témoignages. Donc ce sont bien des crimes de guerre qui ont été commis par l'armée russe, dont on sait qu'elle n'est pas très bien structurée. En fait, il n'y a pas de sous-officiers qui encadrent de façon très réelle les soldats. Ils ont été un peu livrés à eux-mêmes. Probablement, ils ont fait vraiment n'importe quoi. C'est très grave. Et je pense que ça marque un pas, parce qu'il y a déjà eu des crimes de guerre. Quand on bombarde des hôpitaux, quand on bombarde des maternités, ce sont des crimes de guerre. Mais là, c'est un pas supplémentaire dans l'horreur, dans la mesure où on a tué des civils, non pas dans une série de bombardements qui peuvent s'égarer un peu partout, selon les excuses souvent trouvées, mais de sang-froid, si j'ose dire, mais en tous les cas, par esprit de vengeance, par ignominité, des gens qui avaient les mains dans le dos, etc. Et donc là, il y a, je pense, dans la perception que l'on a de la Russie, un avant et un après. Mais, lorsque j'entends le Premier ministre polonais comparer, dire qu'on ne peut plus négocier avec Poutine parce qu'on n'a pas négocié avec Staline et Hitler, il commet deux erreurs historiques. La première, c'est qu'on a négocié avec Staline et c'est qu'avec lui qu'on a mené la Seconde Guerre mondiale et qu'on a vaincu Hitler. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on fermait les yeux sur les crimes de Staline parce qu'il y avait un objectif majeur, vaincre Hitler. On n'est pas dans ce cas-là, on n'a pas à fermer les yeux pour vaincre un adversaire majeur avec M. Poutine. Mais si on n'a pas négocié avec Hitler, c'est qu'on est allé le déloger jusqu'à Berlin. Et personne n'ira à Moscou déloger M. Poutine. Donc, que l'on le veuille ou non, c'est la réalité, elle est désagréable, mais c'est la réalité. C'est bien avec Vladimir Poutine qu'il faudra négocier un cessez-le-feu et puis par la suite une paix.
Vous avez bien raison, c'est vrai qu'il faut en permanence maintenir le dialogue diplomatique avec Vladimir Poutine. C'est ce que je comprends, Pascal Boniface.
Oui, tout à fait, parce que ça n'est pas être naïf, on ne fait pas grand-chose, mais dire qu'on ne lui adressera plus jamais la parole, bah, ça veut dire qu'avec qui on va signer le cessez-le-feu. Et sinon, l'option, c'est d'aller le déloger à Moscou, et on sait très bien que ce serait la Troisième Guerre mondiale, ce que personne ne veut.
Exactement. Merci et bravo pour ce billet d'humeur du Quad 9. Merci, mon cher Pascal Boniface. À très vite. À la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Merci beaucoup.
Avec autant de plaisir, toujours partagé, absolument, mon cher Pascal Boniface. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui sont indécis pour dimanche prochain?
J'aurais aimé parler du billet d'humeur, mais bon, ça, on en parlera plus tard.
Ça y est, on est passé.
Alors, j'ai envie de dire simplement. Oui. J'ai envie de dire simplement qu'il faut voter pour une seule raison, c'est parce que vous ne laissez pas le pouvoir à d'autres de diriger le pays. Donc que tout le monde vote en son âme et conscience, quelle que soit sa conviction. Et moi, à titre personnel, j'incite pour que l'aile gauche puisse calmer un peu Macron s'il arrive au pouvoir, à ce qu'on vote pour Mélenchon pour calmer Macron. Non pas que je sois mélenchoniste du tout, mais je considère qu'il faut donner un signe fort pour qu'il y ait beaucoup moins d'extrémités comme on en a eu pendant les 5 ans.
Jean-Pierre Colombiès.
Eh bien, un coup de gueule exactement, un peu dans la même droite ligne de ce qui vient d'être dit, que la gauche dite de gouvernance, celle qui a existé pendant très très longtemps, celle de Blum, de Jaurès, et j'en passe les meilleurs, se réveille et que justement elle cesse de laisser libre cours à ces franges extrémistes, justement. Parce que la gauche extrême ne m'est pas plus agréable que la droite extrême. On va être très clair là-dessus. Mais je suis désespéré de voir que le Parti Socialiste en est là, à 2% de voix. Moi, ça me terrifie de voir que la candidate qui a été choisie est incapable d'aligner 4 mots sans dire une énormité. Voilà. Donc aller voter, oui, c'est vrai, mais après ça, après le 24 avril, il va vraiment falloir que les esprits se réveillent. Et même s'il faut, et il est possible qu'il y ait un choc électoral, un choc démocratique, ouais, si Marine Le Pen est élue. C'est possible. Mais soyons sérieux, que les gens justement qui ont une vraie conscience politique cessent d'être dans des arrangements de bas étage, de boutiquiers. C'est insupportable.
Et quand bien même elle serait élue, de toute façon, le risque il est ridicule parce qu'il y a la législative derrière qui lui ferait perdre son pouvoir.
Absolument. Merci à Gamal Abila, merci à Jean-Pierre Colombiès, merci à Yanis à la réalisation. On se retrouve demain avec autant de plaisir avec d'autres débatteurs influenceurs. D'ici là, bonne journée, prenez soin de vous.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.